Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Allez, c'est parti, premier enregistrement de l'année et je suis très content de te recevoir, Elisa. On s'est rencontrés sur le salon de la Saint-Élion où on a pas mal discuté dans le stand du CESO et je me suis dit, mais tiens, est-ce que tu passerais pas sur le podcast parce que t'as quand même une histoire assez atypique et intéressante à raconter aux auditeurs de l'Instant Outdoor. Alors, toute première question, comment ça va, Elisa, aujourd'hui en 2024?
Eh bien, ça va, une année qui démarre plutôt bien, voilà, tranquillement, j'avoue, j'ai essayé de couper un peu avec le travail et tout ça, bon, c'était un peu compliqué, mais voilà, ça démarre bien.
Bon, bah écoute, c'est très bien, parce que c'est déjà très bien de bien commencer l'année. Moi, je suis en dry January aujourd'hui.
Ouais, pareil, j'ai adopté la tendance aussi, ouais, ça fait pas de mal.
Trop bien. Et alors, ça tient facilement là en ces 9 premiers jours ?
Oui, ça tient. Après, c'est vrai que on était en stage équipe de France là sur le week-end. Alors, c'est vrai que moi, maintenant que je joue plus, on a plutôt tendance rapidement avec le staff à décompresser en fin de journée, mais ça a tenu. Ça a tenu.
Alors, tu vois, moi, je dis que ce week-end là, j'étais à l'anniversaire d'un fils d'ami et j'ai passé le boss de niveau 1. Mon pote, il est pas trop forceur sur le sujet. Même s'il aime bien, mais là, ce week-end, j'ai deux boss de niveau 10, mon beau-frère et mon beau-père, et si j'arrive à les passer, ce sera un succès.
C'est 38 pour le reste du mois. Là.
Ouais.
Ouais. Mais bon, non, mais après, honnêtement, je pense qu'il y en a de plus en plus aussi qui adoptent un peu cette tendance-là, ça fait du bien un peu de se mettre un peu au vert là sur ce mois de janvier. Ça. Au moins, on démarre bien, je ne sais pas si ça tiendra sur le reste de l'année, mais les résolutions seront bien tenues au mois de janvier.
Ouais, exactement, et puis je trouve que ça te montre que sur le reste de l'année, en fait, t'es pas obligé de tous les soirs, tous les samedis soirs, te la coller ou boire 5-6 verres pour faire bien.
Ouais, c'est vrai que ça devient une habitude en fait. On est plutôt dans notre culture de partage, à dire que dans le partage, il y a forcément un verre ou deux. Bon, on l'a tous adopté, hein, cette méthode-là, mais c'est vrai que, voilà, de temps en temps, puis ça, il y a un côté rassurant à se dire, non, mais regarde, c'est bon, moi, je peux couper quand je veux, et sans que ça soit un problème, quoi.
Alors que c'est pas si facile que ça, hein, honnêtement.
Et non.
Écoute, tu vois déjà un premier sujet dont je ne pensais pas parler sur le podcast et pourtant on y est. Alors, outre le fait que tu es né en 87 et qu'en 87 c'est un très grand cru qui est apparu, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, Elisa?
Elisa, voilà, je suis depuis le 1er janvier 2024 officiellement une ancienne athlète de haut niveau, puisque ça y est, je suis sortie des listes, c'est la première année que je suis sortie des listes. Je suis cadre technique pour la Fédération française de rugby à 13. J'ai été pendant 10 ans avant de basculer vers le monde fédéral, j'ai été prof de PS. Pendant les 10 ans, voilà, j'ai eu un parcours classique, études STAPS, et puis j'ai eu mon concours début 2010-2011, voilà, où j'ai enseigné sur Paris et sur Bordeaux, et puis j'ai basculé un peu vers le monde fédéral, étant donné que c'était mon sport. Voilà, j'avais la fédération qui m'a proposé un poste, donc voilà, j'ai basculé du monde de l'éducation nationale vers le monde du ministère des Sports, et puis tout en continuant en fait parallèlement une petite carrière d'athlète de haut niveau avec plusieurs où je suis passé par plusieurs sports, mais je crois que c'est aussi la vie et les rencontres en fait qui font qu'on change d'un sport à l'autre, puisque moi j'ai grandi à Chamonix, donc j'ai commencé par le ski de fond. Voilà, donc sport études ski de fond, je suis revenu sur Bordeaux au moment du lycée, donc j'ai basculé sur la course à pied puisque c'était le, voilà, le on va dire la suite logique. Et puis où je suis rentrée au pôle à Talence, donc à côté de Bordeaux. Puis j'ai basculé ensuite vers le, pareil, encore un moment de vie qui fait que j'ai basculé vers le cyclisme, où j'ai fait quelques années. Et ensuite, en rentrant à la fac des sports, un peu après, en passant en concours, en fait, je me suis aperçue que pour préparer l'oral du concours, ben, le cyclisme, il n'y avait pas. Et donc, j'ai basculé vers le rugby, comme ça, où j'ai joué à 15 au Stade Bordelais pendant quelques années, où on a été championne de France, et on est monté au plus haut niveau français, là, en top 10, on appelait ça avant. Et puis, j'ai basculé après vers le rugby à 13, où on est venu me chercher. Et puis, voilà, j'ai terminé ma carrière sur des Coupes du Monde. Et parallèlement, pareil, encore une rencontre où j'ai connu quelqu'un qui faisait du judo, donc je me suis mise au judo aussi, parallèlement de ma carrière de rugby. Voilà. Donc j'étais bien occupée jusque-là.
Alors, ça fait quoi de sortir des listes d'athlètes de haut niveau? C'est quelque chose qui a été, enfin, ça t'a fait un petit pincement au cœur un petit peu, ou finalement c'est passé assez facilement?
C'est honnêtement, c'est alors le pincement au cœur, non, non, là j'en ai pas eu là. Voilà, c'était en plus de ça, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi juste avant de t'en parler. Voilà, je me suis dit, ah tiens, au fait, sous la douche tout à l'heure, je me suis dit, ah tiens, au fait, c'est vrai que ça y est, c'est fini. Non, j'ai eu une difficulté, oui, comme je pense beaucoup d'athlètes de haut niveau, à arrêter, en fait, à arrêter de jouer. Même si on se dit que ben, on l'a préparé, que ça va être facile. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, une fois que j'ai arrêté de jouer, j'ai basculé, donc j'ai arrêté de jouer en novembre 2022, sur la Coupe du Monde. J'ai fait mon dernier match international, en plus de ça, la veille de mon anniversaire, donc ça termine un peu en apothéose. J'ai arrêté de jouer officiellement en club en juin 2023, et je me suis dit, tiens, ça va être super simple, parce que j'avais déjà repris en management l'équipe de France féminine. Donc j'avais pas vraiment coupé avec le haut niveau, j'avais arrêté de jouer, mais j'avais pas coupé. Et honnêtement, en fait, un an après, je m'aperçois que ça a été... On se le cache, mais c'est hyper dur. Ça a été un moment, voilà, où on n'en parle pas beaucoup parce que tous les gens autour de soi, bah, considèrent que voilà, on a fait une belle carrière, c'était génial, puis t'as arrêté sur un moment qui était vraiment bien. Bon, en club, j'ai arrêté sur une finale perdue, donc c'était un peu plus compliqué. Puis c'était la première en plus, perdue. Mais arrivé à bilan au bout d'un an, c'est maintenant qu'en fait j'en parle, où je me dis ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué d'arrêter, de passer de tout à rien, de se lever le matin. J'ai essayé pendant un an de continuer à aller à la salle, essayer de trouver un autre challenge. Mais quand on, enfin, moi, j'ai démarré le sport études, j'avais 12 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Donc, j'ai fait plus de temps en carrière, j'ai envie de dire, que sans rien faire. Et ben, on se cherche des objectifs, quoi. On cherche des raisons d'aller à la salle, on cherche des raisons même de se lever le matin en se disant, mais c'est quoi ma prochaine échéance? Bon, quand il n'y en a pas, du coup, on perd un peu les repères, quoi. Et c'est pas un moment facile à vivre, en fait. Vraiment.
Et alors, tu disais que tu étais maintenant à la Fédé. Est-ce que justement la Fédé accompagne à ça, à la transition, à la reconversion?
Alors, il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de fédérations, oui, qui accompagnent. Alors nous, sur le rugby à 13, on est quand même un sport mineur, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens, mais c'est moi qui suis passé par là, honnêtement, c'est quelque chose qui est primordial de mettre en place au sein de toutes les fédés. Oui, il y a beaucoup de fédérations aujourd'hui qui, et notamment de clubs, même les clubs déjà, quand on est club pro, il y a tout un pan justement avec des gens qui accompagnent sur la reconversion. J'en parlais justement avec Aurélien Rougerie, qui lui s'occupe de ça à l'ASM, notamment de ça, pas que de ça, mais et qui, voilà, qui propose des formations déjà pour les joueurs qui sont toujours en carrière mais qui vont arrêter dans un an ou deux, qui aident à la transition. Alors, aider à la formation, trouver ce qui va motiver ensuite un athlète par la suite, c'est une chose. L'accompagner, et c'est le projet, je crois, qui va être porté au Centre de droit et d'économie du sport par Jérémy Clément, qui est un ancien footballeur de Saint-Étienne et du PSG, qui me disait que lui, justement, il voulait monter quelque chose là-dessus, quoi, parce qu'il a vécu aussi. Alors on accompagne souvent les sportifs 6 mois avant. Voilà. Mais quand la carrière, on le sait, l'athlète a annoncé la fin de sa carrière, là, on va d'un coup, il va y avoir des choses autour de lui. Mais je pense que c'est trop tard. 6 mois, c'est trop tard. Je pense qu'il faut préparer les choses 2 ans avant. C'est ce qu'a fait pareil notre copine, la Siraba Dembélé, qui a arrêté en handball et qui a préparé sa sortie 2 ans avant elle. Et qui ne le vit pas trop mal pour le moment. Voilà, il faut que les fédés, en effet, on pense que bah voilà, ce qui nous est proposé en tant qu'athlète de haut niveau, de la reconversion, des formations, un peu d'accompagnement, c'est suffisant, mais honnêtement, je crois que ça l'est pas encore aujourd'hui, quoi. Alors, c'est, comment dire, c'est vrai que c'est un. Je suis pas persuadée que les gens, alors entre guillemets, bien sûr, il y a rien de péjoratif lambda, mais les gens lambda comprennent vraiment en fait ce qu'on vit quand on arrête. C'est vrai que moi je m'étais confrontée, mais c'était génial ce que t'as fait, tu peux être fière de toi, tu peux. Oui, mais bon, c'est quoi la suite, quoi? Voilà, on est tellement conditionnés que je crois que les gens se rendent pas compte de ce que ça signifie derrière d'avoir un creux et le soir, alors qu'on était habitué à faire 3 heures d'entraînement, voilà, de plus les faire, et les gens se disent, ah, c'est bien, tu vas te reposer, maintenant tu vas avoir du temps pour toi, ça y est, ouais. Enfin, sauf que le temps pour soi, il est compliqué. Il est compliqué à gérer.
Quand tu as eu une vie rythmée par les mêmes habitudes, le matin, le midi, soir, c'est toujours un peu la même rengaine. L'année, elle est calée selon un agenda qui est bien précis, rythmé selon les compétitions à droite, à gauche, internationale, et que tu es toujours dans cette mouvance, et puis que d'un coup, pouf, tout ça s'arrête. Ouais, je comprends que ça soit compliqué, mais en même temps, c'est pas simple de savoir quelle sera j'allais dire la date de péremption, mais.
C'est presque ça. Non, mais c'est presque ça. C'est vrai qu'en plus de ça, en tant que sportif, je pense qu'on a toujours la volonté d'arrêter au bon moment. Soit d'arrêter sur un pic de forme où on vient de gagner et il faut s'arrêter. Soit ben, on arrête sur une blessure. Soit on arrête parce qu'on s'est fait juste sortir d'une sélection et que ça y est, on n'a plus de niveau. Donc je pense qu'il y a une crainte d'arrêter au bon moment. Après, il y en a, moi j'en connais, qui disent, moi j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que mon corps me dise vraiment stop, ou que je me blesse, ou que voilà, qu'ils veulent rien perdre. Moi, je sais que c'est quelque chose, j'aurais pas supporté d'arrêter sur une blessure, ou je n'aurais pas supporté de me faire sortir de sélection. Voilà, j'ai préféré choisir ma sortie. Alors, est-ce que du coup, j'ai arrêté au bon moment? Physiquement, peut-être que j'aurais pu continuer encore un peu, mais toujours en prenant le risque. Donc en fait, on est toujours dans ce truc-là de se dire aussi, j'ai arrêté, mais est-ce que j'aurais pas pu continuer un peu? Enfin voilà, c'est toujours dans une, voilà, dans un questionnement, jusqu'à ce que bon, sûrement qu'il y a un moment donné où ben, la coupure, elle se fait et ça y est, la vie, elle continue, quoi.
Alors, tu as quand même la particularité d'avoir été multisport un petit peu. Tu dis que c'est au rythme des rencontres. Tu vois, il y a la grande majorité des gens qui n'arriveront jamais à être champion de France d'un seul sport.
Oui.
Toi, tu as été championne de France de 3 sports qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Comment tu fais?
Ben non, mais après, ben ça, je sais pas. Faudra demander génétiquement ce qui s'est passé. Non, après, en effet, je crois que c'est des rencontres, c'est des faits de vie, c'est voilà. Enfin, je faisais de la course à pied, puis, enfin, c'était quelque chose que je partageais avec ma mère et d'un coup bah, qui a disparu. Donc en fait, je me suis pas sentie continuer, donc j'ai basculé vers le vélo, qui était plutôt un sport bah, qui au niveau filière énergétique et plutôt endurance, moi j'ai toujours été sur des sports plutôt endurance, qui correspondaient. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans un peu à corps perdu, quoi. Et puis bah, avec aussi un deuxième parent, enfin mon père, qui suivait beaucoup, qui sans m'encourager dans la compétition, parce que lui il n'était pas du tout, mais en tout cas a tout mis en œuvre autour de moi pour que ben bah, voilà, ça se passe bien. Et puis bah, ça s'est bien passé. Donc voilà. Et puis ensuite, alors j'ai fait 2 titres sur du cyclisme. Et puis ensuite, pareil, ben voilà, un peu marre de rouler, un peu marre de. Puis le fait de rentrer en fac des sports, qui est plutôt un endroit qui est ultra convivial, un sport qui n'était pas trop pratiqué, le vélo. Sur Bordeaux, on était plutôt sur du rugby. Et voilà, envie de changer. Donc du coup, tiens, les copines qui étaient plutôt de Bayonne, du Pays Basque, des Landes, faisaient toutes du rugby. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, hein, je vais aller faire du rugby. Donc voilà, j'ai joué pendant quelques années au Stade Bordelais. Donc on jouait en Élite 2, en Armelle-Auclair. Et puis voilà, où ça s'est bien passé aussi. Le fait, c'était mon premier sport collectif, donc je découvrais aussi un peu ça. Ça s'est bien passé. On avait une belle génération aussi avec, moi je jouais avec Camille Gracineau, qui est aujourd'hui quand même, qui prépare ses troisièmes JO voilà, qui prépare ses troisièmes JO à Paris, en rugby à 7. J'avais Anaïs Lagougine, qui était ancienne capitaine de l'équipe de France à 7. Rose Thomas, qui a fait aussi, deux JO, je crois, aussi, qui a arrêté. Voilà, on avait une belle génération, donc j'ai adhéré là-dedans, et puis ça m'a plu. Et puis en fait, parallèlement, on est venu me chercher sur du rugby à 13, voilà, des entraîneurs qui étaient au bord du terrain, puis qui m'ont dit, tiens, pourquoi pas, ton profil pourrait être sympa, dans un an, il y a une Coupe du Monde. En sachant que j'avais fait une ou deux sélections à 15, et que sur l'équipe de France, et que, bon, j'étais barré un peu, enfin barré. On était en concurrence avec Jessie Trémoulière, qui a été élue meilleure joueuse du monde il y a quelques années, et avec un club, moi, sur le Stade Bordelais, qui me faisait pas jouer au poste où, bon, voilà, c'était comme ça. Il y avait de la concurrence au poste, donc je jouais plutôt à l'aile, qui est pas mon poste, parce que quand on voit quand je cours. Et en fait, voilà, ils sont venus me chercher. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai joué parallèlement, je faisais les deux. Puis avec le Stade Bordelais à 15, on a été champion de France en Élite 2, donc on allait intégrer le top 10. Et là, en fait, le club m'a demandé de choisir, quoi, 13 ou 15. Bon, voilà, j'ai basculé vers le 13. J'étais prof en même temps, donc voilà, j'ai basculé sans regret, hein. Aujourd'hui, vraiment, j'ai fait le bon choix. Et puis voilà, j'ai démarré en 2011, je crois. Du rugby à 13, quoi. Voilà. Donc,
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que tu arrives à être aussi performante aussi vite dans des sports qui ont rien à voir. Tu vois, le judo, c'est quand même un sport où il y a beaucoup de jeunes qui commencent très tôt
oui.
et qui n'arrivent jamais à être au niveau. Toi, tu arrives à être championne de France sans pour autant avoir commencé à 3 ans, quoi. Alors,
Oui.
tu as une capacité d'apprentissage, tu dirais, qui est où tu as remarqué que tu apprenais les sports plus rapidement que les autres?
Oui, en fait, j'ai une capacité. Je suis assez petit soldat, moi. Enfin, j'ai une capacité à m'entraîner dur. En faire souvent plus que les autres parce que j'ai envie de progresser vite. Et je me souviens sur le judo, en fait, j'ai tout simplement, hein, j'ai connu quelqu'un qui était prof et qui m'a dit, bah tiens, viens essayer. Je faisais du rugby à 13 en même temps, j'étais en équipe de France. Qui m'a dit, bah tiens, viens essayer, ça peut être, ça peut pas te faire de mal, quoi, sur du rugby. Puis voilà. Bon, et puis c'était une manière aussi de suivre. De partager aussi quelque chose, non seulement partager un quotidien, mais de partager, voilà, un sport, quoi, et les valeurs du sport. Bon, moi, le judo, je connaissais pas du tout. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis prise au jeu, quoi, parce que j'ai aimé, et puis que j'ai apprécié aussi être, voilà, partager cette double vie quotidienne, vie amoureuse et vie sportive. Donc et puis j'ai un côté, en fait, où j'ai pas envie de décevoir. Donc là, c'était, voilà, j'avais pas du tout envie de montrer que j'y arrivais pas. Donc je me suis entraînée dur, et quand il fallait, des fois c'était, alors je faisais c'était j'avais basculé où c'était je m'entraînais tous les jours, quoi. Sur Bordeaux, je cherchais les clubs tous les soirs, j'allais dans un club différent pour m'entraîner, pour trouver des partenaires, pour et voilà, et J'ai été championne de France, je crois que j'étais ceinture marron encore. Ça faisait. Je crois que j'étais championne de France en 2014 et j'ai démarré le judo vraiment en 2012, quoi. 2011, 2012. Donc voilà, ouais, j'étais pas ceinture noire encore. Mais voilà, oui, j'avais cette capacité à m'entraîner dur. On me disait, bah, parce que je suis passée par les régimes aussi. Je connaissais pas. Bonne surprise. Voilà, et donc, où j'ai fait, je me souviens, ma première compétition, on m'a dit, bah, tu vas la faire en 63 kilos. Bon, première compète, ceinture verte, 63 kilos sur des seniors, pareil, toute ceinture noire. Bon, honnêtement, ma première compète, je me suis fait éclater. Puis là, on m'a dit, non, mais fais-moi confiance, tu vas tomber d'une catégorie. Bon, ça me demandait de perdre 5 kilos dans la semaine. Mais là aussi, pareil, voilà. On me disait, ben, le lundi, t'es à tant, je veux que samedi matin à 9h, tu sois à 57 kilos. Ben, je le faisais. Sans réfléchir à ce que j'allais traverser ou quoi, alors, où c'était dur, mais je le faisais. C'était ma capacité, ça a toujours été ma capacité. Voilà. En vélo, c'était pareil. J'avais de la course à pied. J'ai intégré un club. Voilà, on faisait des 90 bornes, des 100 bornes, des. Ben, j'ai eu du mal, hein, au début. Enfin, puis en plus qu'avec des mecs, quoi. Donc, mais c'est pas grave. Mais c'est la tête. Je disais rien, je le faisais. Voilà. Ça a toujours été ça. En course à pied, c'était pareil. Voilà. Je sais pas si j'ai un côté sûrement, enfin, génétiquement, j'ai trouvé la filière qui me correspondait, on va dire. Mais après, c'est cette capacité à m'entraîner dur, quoi. Voilà. Je pense pas être plus doué que les autres. Je pense par contre avoir une capacité à, s'il faut s'entraîner 3 heures sur un tapis et me faire massacrer par 25 personnes, je vais le faire. Parce que je sais que derrière, ça paiera, quoi.
Tu dirais que c'est un trait de caractère dans ceux qui réussissent, entre guillemets réussite, hein, ou qui ont des titres, qui se retrouve et qui se reproduit à chaque fois, ou pas
Ah, parce
forcément?
que pour moi, de toute façon, il n'y a pas de réussite sans ça. Enfin, moi, j'ai encore jamais connu de vrais enfin, d'athlètes qui ont réussi sans passer par une case souffrance. Je pense pas. On ne voit à chaque fois sur les athlètes que la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Usain Bolt qui gagne les 100 mètres, les 200, c'est la partie émergée. Il faut regarder les entraînements qui sont derrière. Et quand on regarde ce qu'il faisait, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance et il y a une capacité d'entraînement qui est sûrement peut-être. Alors, il y a génétiquement, ça, on n'y peut rien. Mais il y a une capacité d'entraînement qui est souvent supérieure à la normale. Après, moi, je l'ai répété sur tous les sports parce que j'avais envie de réussir sur tous les sports. Et quand j'ai eu ce truc-là aussi, c'est que quand je voyais que je stagnais, je changeais. Parce que je ne supportais pas de ne plus gagner. Donc voilà, quand j'ai senti que sur du rugby à 15, bon, j'allais me faire plaisir, j'allais jouer en top 10, mais j'allais être une joueuse, j'allais dire lambda, peut-être dans l'eau, mais pas sans plus non plus, j'ai changé. Et puis je me suis dit, bah, va t'entraîner dur ailleurs, peut-être que ça paiera. Voilà. Et si aujourd'hui, je suis en totale recherche de ce que je veux faire, mais je sais, j'avais envie de reprendre tout ce qui était course à pied, et notamment les gens qui me connaissent m'ont dit de suite, Lisa, le sport qui t'irait le mieux quand t'arrêteras, c'est le trail. Parce que tu vas te jeter à corps perdu là-dedans et tu vas finir à faire des 80 et des 90 bornes et ça te plaira. Alors bon, je
Et
suis un
aller
peu.
gagner en plus.
Ouais, de gagner. Alors je sais pas si il y a vraiment aujourd'hui, je suis un peu moins dans le côté gagner, mais par contre je suis dans le côté fais-toi mal. Tu sais, ça, on est addict en fait, hein. On devient addict à cette souffrance qu'on a toujours connue. En fait, enfin moi j'ai toujours souffert. En m'entraînant, j'ai toujours souffert en faisant des compètes, en faisant des régimes. Le vélo, ça a rien de. Les entraînements, ça a rien de très excitant, quoi. Genre, on part 5 heures sur son vélo tout seul, et faut. Enfin, parfois, et puis il faut se mettre, voilà, la misère tout seul. C'est. Voilà, c'est compliqué, mais on est addict à ça. Et c'est vrai que Moi, le premier sport, voilà, je me suis dit, en effet, tu vas faire du trail, tu vas partir sur des trucs où tu vas te faire mal à toi. Alors, gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que en partant sur un sport comme ça, je vais retrouver la douleur et peut-être, au-delà de gagner, je sais que je pense que je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à me dire, j'ai réussi. Là, voilà, à me dire, j'ai terminé. Voilà. Alors, je suis un peu embêtée avec une hanche et un dos qui, aujourd'hui, je paye les efforts d'avant.
Tu subis les
Mais
tampons.
ouais, les tampons, les rotations, tout ce qui est judo, les rotations sur les hanches qui sont, voilà, qui sont douloureuses aujourd'hui. Mais voilà, ouais, je sais que bon, c'est un sport qui, je pense, me correspondrait bien. Je pense.
Pourquoi c'est important la gagne pour toi? S'il y en a plein, c'est juste terminer en bonne santé, se faire plaisir, aller retrouver des gens, côté social. Pourquoi est-ce que pour toi la gagne, c'est important et ça l'a toujours été?
C'est une raison d'exister. C'est une raison d'être, entre guillemets, d'être quelqu'un. On est reconnu quand on gagne. Moi, ça a été ça rapidement, notamment au collège, parce que j'ai pas eu d'enfance hyper facile. Pas qu'elle ait été malheureuse. Elle a été assez difficile, malgré le cadre où j'ai grandi à Chamonix. Donc voilà, on peut se dire, il y a quand même de la chance. Oui, il y avait de la chance. De ce côté-là, le cadre était beau. Maintenant, j'ai pas eu forcément une enfance toujours ultra joyeuse avec voilà, parents divorcés, avec une mère un peu compliquée. Donc pour moi, c'était les problèmes que j'avais à la maison s'effaçaient totalement. Enfin, quand je gagnais, on me voyait à l'école pas comme la petite fille avec la mère qui a quelques soucis. On me voyait plutôt comme voilà, celle qu'on n'arrive pas à gagner, quoi. Et c'était, je me souviens, c'était en plus de ça, à Chamonix, il y a vraiment une culture du sport aussi, en plus, hein, et de la gagne. Donc voilà, c'était une fierté d'avoir, de me dire, bah, j'ai gagné pendant 4 ans le cross du collège, que ça soit collège, département, région, et on allait aux France après. Alors, j'ai jamais gagné les deux, jamais gagné un championnat de France UNSS en collège, parce que il y avait les sœurs Mouton, qui ont fait les JO ensuite en triathlon. Voilà. Donc il y avait du niveau quand même. Voilà. Donc je les ai jamais battus. Soit je faisais 3, soit je faisais 2, soit mais jamais première. Bref. Et donc du coup voilà, c'était une manière de une espèce de fierté. Voilà. Je suis contente aujourd'hui. C'est que de l'ego qui parle. Mais j'ai une plaque au collège à Chamonix à mon nom. 10 ans, enfin voilà, donnant le palmarès sur mes années de collège. Donc voilà,
Bientôt
c'était une
un
manière,
gymnase, bientôt un gymnase à ton nom.
voilà. Ouais, voilà, peut-être pas quand même, mais j'avais une plaque dans le bureau du proviseur. Ouais, je sais pas si elle y est toujours, mais voilà, c'est hyper fier à Chamonix, quoi, parce qu'à Chamonix, c'est quand même l'usine des champions sur certaines activités. Voilà, et d'être assez fier de voilà, c'est ça me permettait d'exister, quoi. Ça me permettait de voilà, j'étais respecté pour ça, quoi. Voilà. Donc et ensuite ça m'a voilà, c'est agréable. On peut pas nier ça. Ça serait malvenu celui qui dit qu'il s'en fiche de la gloriole de gagner, quoi. C'est toujours agréable d'être plus ou moins, alors dans chaque, enfin voilà, je suis pas Usain Bolt, hein, mais d'être reconnu dans certaines sphères, quoi. Voilà, c'est donc ça m'a. Puis bon, le côté gagner, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je sais quand je gagne mon titre en judo, c'est tout le travail accompli. C'est on voilà. C'est enfin, il y a une part d'une immense joie, mais il y a aussi une immense fierté d'avoir fait tout ce qu'on a fait pour y arriver, quoi. Donc j'ai gardé cette culture. Pourtant, j'ai pas été élevée là-dedans. J'ai un père qui très sport, mais sport loisir, quoi, qui aime faire les choses juste pour lui. Donc c'est pas m'a pas fait grandir là-dedans, mais voilà.
Mais peut-être perfectionniste sur d'autres sujets?
Lui?
Oui, lui ou
Ah
t'es...
oui.
Ouais.
Oui. Plutôt matheux, donc très carré dans pas mal de choses. Donc, non, mais c'était encore une fois, c'était une manière, voilà, de rendre fiers aussi mes parents. Enfin, voilà, vaut mieux avoir un enfant d'un côté qui gagne. Enfin, moi, c'était ça. Je me disais, tiens, je vais les rendre fiers là-dessus, sur le fait. Voilà, après, j'ai fait des études, tout va bien. Je veux dire, ils n'ont pas été déçus de quoi que ce soit, mais voilà, de dire, regardez ce que je suis capable de faire, quoi.
Et en plus, tu faisais tout ça, enfin, tu as eu tous ces titres en continuant de travailler parce que tu ne vis pas de tout ça.
Et non. Et oui, il fallait. Moi, c'était la condition. Alors, mon père m'avait toujours dit si tu veux faire du tennis ou du golf et que tu es doué là-dedans, promis, tu arrêteras tes études. Sinon, tu continues. Voilà, donc, parce qu'en effet, moi, j'ai jamais gagné ma vie avec les sports que j'ai fait. Donc, obligation de travailler à côté, enfin d'avoir un métier. Donc, après j'ai fait des études dans le sport, donc il y avait aussi un côté facile à pratiquer et à continuer un cursus. Voilà, les gens qui m'entouraient étaient quasiment tous dans le même trip, donc sans forcément faire du sport de haut niveau, mais tout le monde jouait les week-ends ou pratiquait son sport. Et on avait des super athlètes aussi en STAPS, donc ça a plutôt été facile, voilà. Et puis même quand j'ai été prof, comme j'étais sur les listes d'athlètes de haut niveau, c'est vrai que l'éducation nationale quand même reconnaît les statuts. Et j'ai longtemps travaillé par exemple la moitié, mi-temps sportif, alors on est payé pareil, mais on travaille que la moitié du temps. Et pour se consacrer à son sport à côté. Donc j'ai eu de la chance et j'ai quand même bénéficié de pas mal de choses qui sont mises en place pour aider les sportifs de haut niveau. Ce qui est pas le cas de beaucoup de filles aujourd'hui. Je vois sur l'équipe de France féminine de rugby à 13, c'est pas le cas du tout, quoi. Voilà, avec certains métiers où les filles sont obligées pour partir en la dernière Coupe du Monde, des filles qui sont parties en congé sans solde. Il y a des filles qui ont utilisé tout leur congé de l'année pour les stages de préparation et pour la Coupe du Monde. Il y a des professions libérales qui ont fermé leur cabinet en acceptant de perdre de l'argent. Il y a des filles qui ont démissionné de leur job puisque ça allait pas le faire. Enfin voilà, ça c'est la réalité, quoi.
Et tu me disais qu'il y avait même des stages où il fallait payer pour y aller.
Ça, c'était avant, ouais. Moi, les premiers stages que j'ai connus, on allait souvent faire une journée de stage, hein. C'était même pas 2 jours ou 3 jours, c'était une journée. On descendait à Perpignan, on partait de Bordeaux à 4h du matin. Il fallait payer le voyage, donc on était 4 dans la voiture, ça coûtait 200 € aller-retour, c'était 50 € pour le conducteur, quoi, par personne, voilà. Et on n'était pas remboursé de ça aujourd'hui. Voilà, c'était, ouais, non, mais c'était totalement à nos frais, une fois là-bas. Et puis, en plus, voilà, c'était sur la journée. Donc, on avait, oui, le repas qui était pris en charge là-bas, mais c'est tout, quoi. Donc, aujourd'hui, ça a changé. On est remboursé. Les filles sont, puisque c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Donc, les filles sont remboursées, bien entendu, de leurs frais, mais elles font quand même l'avance de frais. Mais les filles sont remboursées dans la semaine, elles envoient leurs frais, leurs kilomètres, et voilà. Et ensuite, quand on est en match officiel, quand on est en semaine de match ou qu'on a des échéances internationales, les filles sont payées. Elles ont des IJ, des indemnités journalières. Alors c'est à hauteur de 40 €, hein. Donc je veux dire, pour des joueuses qui sont, par exemple, qu'on est cabinet dans une qui est arrêtée mais qui était podologue, 40 € par jour, ça couvre pas ses frais, quoi. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que ça n'était il y a quelques années, quoi.
Et comment on le vit, ça, en interne? Enfin, ça met pas la rage un peu de voir qu'il y a certains sports qui où tu gagnes très, 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 très bien ta vie, et d'autres où tu galères.
Écoute, après, il aurait fallu basculer dans être meilleur dans un sport, quoi. Voilà. Et
c'est comme pas ça. Choisi les bons. Hein.
Voilà, exactement. J'ai pas choisi que ça soit la course à pied, moi, le vélo, ou encore le vélo aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est pas des milliers des cents non plus. Hein. Et ou le rugby. Rugby à 15, oui, maintenant, j'ai pas pris le bon. Mais après, on fait. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais fait ça pour l'argent. Voilà. Donc, et puis, je suis d'une génération où il y a eu la transition pendant ma génération, mais c'est surtout la génération à venir, quoi. Où là, les choses ont quand même changé et il faudrait pas qu'il y ait de retour en arrière sur certains sports. Mais où, c'est aux filles maintenant aussi de revendiquer certaines choses. Nous, Moi, j'ai vécu la transition justement de tout payer à être défrayé, voire même payé. Maintenant, on s'est battu pour ça. Moi, je me souviens qu'une des Coupes du Monde, en 2013, ils nous envoyaient, puis au dernier moment, ils nous ont dit, ah, il reste 500 euros à payer par personne. Là, je me suis dit, mais si on accepte, alors que la première Coupe du Monde que les filles avaient faite en 2008, en Australie, elles avaient payé leur billet. C'est les filles qui s'étaient payées leur billet. Donc en fait, c'était même plus une sélection équipe de France, c'était à qui pouvait payer le billet, quoi. Donc, et en fait, en 2013, en suivant,
Incroyable.
on nous dit, voilà, vous partez, oui, mais il y a 500 euros par personne. Et je me souviens aller voir l'ensemble des joueuses et leur dire, si on craque là-dessus, on craquera toujours. En fait, on est déjà en train de se payer des trajets. Alors, en plus de ça, quand ils me l'ont annoncé, je me souviendrai toujours, c'était à Avignon. Donc, j'avais fait un Bordeaux-Avignon pour m'entendre dire que j'allais partir, mais qu'il allait falloir payer. Déjà que le Bordeaux-Avignon, je l'avais payé de ma poche. Donc, et en fait, je me souviens de dire au manager à ce moment-là, sur le terrain, bah, puisque c'est ça, on partira pas. L'équipe de France, alors il y avait une ou deux joueuses qui n'étaient pas d'accord, mais noyées dans la masse, dire on ne partira pas. Et ben faites ce que vous voulez. Et moi j'irai expliquer à la télé pourquoi on ne part pas. Et c'est ce qui s'est passé. On avait été. L'info avait été relayée. Il y avait une émission à l'époque sur C8, ou sur Direct 8, ça s'appelait avant, avec Roselyne Bachelot. C'était une émission où il y avait trois animatrices. C'était, je sais pas, c'était pas Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot et je sais plus la troisième, et en fait elles avaient relayé l'information. Nous on était passés un peu chacune dans nos télés un peu régionales. Ça avait fait vriller l'ancien président de la Fédé qui m'avait appelé en me disant, puisque c'est ça, toi tu partiras pas. Bref. Et en fait on avait trouvé, voilà, le sponsor était arrivé au dernier moment et puis avait payé ce qu'il fallait payer, et puis tout le monde était parti. Mais voilà, en fait ce n'est que des petits combats comme ça, quoi. Et où on a réussi un peu à faire évoluer les choses. Sinon, bah, si on avait payé, ça aurait été, on aurait payé toute notre vie, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, bah, les filles, elles sont reconnues sur la liste d'athlètes de haut niveau, elles sont défrayées, elles sont payées quand elles sont en tournée. Après, voilà, faut que ça évolue. Faut que ça évolue. J'ai bon espoir. Enfin, moi, je surveille ça de près aussi pour être manager de l'équipe de France féminine et puis de coordonner un peu sur toutes les équipes de France. Voilà, je veille au grain, quoi, sur ça.
Mais c'est vrai que la peur de d'avoir fait tout ce travail à l'entraînement que tu décrivais tout à l'heure et puis de finalement être blacklisté juste parce que tu as ouvert ta gueule, ben en fait je comprends hein, que ça fasse peur à plein de sportifs qui n'osent pas l'ouvrir et puis qui se disent bon allez, ma carrière j'aurais peut-être qu'une fois ou deux l'occasion d'aller à un championnat du monde. Bon bah allez, je vais payer et puis est-ce que ces 500 balles qu'on me demande ça, finalement, ça vaut pas tous les sacrifices que j'ai fait avant. Je comprends le raisonnement de ceux qui sont un peu frileux à le faire, mais en même temps, tu peux pas laisser passer ça, quoi. C'est compliqué, hein.
C'est tout le. Oui, c'est. En effet, quand on s'est préparé, puis en plus, alors nous, c'était une Coupe du Monde, mais quand on a encore des athlètes qui se préparent pour les JO, et c'est galère pour eux, quoi. Et en fait, ben, t'as des sacrifices à faire, en effet, notamment sur l'argent, les choses comme ça, où tu te dis, ben, attends, je peux pas me priver d'une échéance comme ça et d'une chance de vivre ça. Après, ben, y a. Enfin. Genre ça, je le juge pas du tout parce que c'est vrai que quand on est dedans, moi si quand je dis au manager, bah, puisque c'est ça, on part pas, c'est coup de poker, quoi. Parce que s'ils me disent bon ben bah, ok, c'est acté, vous partez pas, ah, j'aurais pas été bien là, hein, quand même. Hein. J'aurais pas été bien. Donc c'est voilà, c'est coup de poker, ça a marché dans notre sens, et tant mieux. Mais oui, mais il y a plein d'athlètes qui renoncent à plein de choses et qui baissent la tête juste pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Tant pis. Tant pis. Mais enfin, moi, je le comprends, hein, je le comprends totalement. Quand on est enfin, surtout sur des JO ou même des Coupes du Monde, on prépare 4 ans, quoi. 4 ans, c'est long. Moi, je sais même que quand bon, il y a eu Covid, la dernière Coupe du Monde devait être faite en 2021. A été décalé d'un an, ce qui me demandait, moi, de prolonger, alors que j'avais prévu d'arrêter à ce moment-là, de prolonger encore un an. Et un an, c'est un an de sacrifice, un an de préparation, un an de... Voilà, c'est donc oui, on accepte plein de choses pour nous par exemple sur de la prépa, notre dernière préparation, c'était 4 séances de ou 3 séances de cardio plus 3 séances de muscu dans la semaine. Bon, le cardio ça passe, c'était sur internet, soit la muscu. La Fédé nous paye pas des abonnements pour aller dans les salles de muscu. Donc c'est pareil, c'est un investissement quoi. Alors, il y a des clubs qui avaient leur propre salle et tout ça, où ça fonctionnait, et encore il n'y avait pas beaucoup. Mais moi, par exemple, je jouais à Albi et j'habite Bordeaux, bon, bah, ma salle, je me la payais moi-même, quoi. Voilà, donc c'est des investissements, c'est des sacrifices à faire en plus. Mais bon, on les fait parce qu'on se dit, attends, moi, je ne veux pas me payer ma salle, je ne vais pas faire la muscu, bon, bah, on verra si je suis prise ou pas. Non, on ne prend pas le risque. On paye et puis voilà.
Encore une fois, le côté bon petit soldat, tu fais.
Oui. Moi, j'ai toujours été comme ça. Enfin, voilà, j'ai toujours. C'est ce qui me caractérise. Je voulais pas. Puis en plus ça, je m'étais un peu mise un point d'honneur. J'arrivais à 35. Enfin, je savais que j'allais avoir. J'ai fait ma dernière Coupe du Monde. J'en avais 34. Enfin, j'arrive à 35. Bon, tu sais qu'à un moment donné, si tu te prépares pas un minimum quand même, et puis je me suis dit, pour vivre bien ta dernière Coupe du Monde, il faut vraiment que tu la prépares, quoi. Parce que je savais qu'on allait jouer l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Cook. Donc, si t'étais pas prêt, on allait jouer, enfin, j'allais jouer, mais j'allais pas me faire plaisir, quoi. Donc, voilà. En bon soldat, pareil, je me suis dit, mets-toi encore un an de sacrifice, de tout ce qu'il faut pour, et ça m'a permis quand même de pouvoir passer, alors même si le résultat n'était pas là, mais personnellement, de pouvoir faire 3 bons matchs sur le terrain et de pouvoir m'éclater, quoi.
Mais pourtant, c'est toi le bon petit soldat qui fait ce qu'on dit à l'entraînement, mais c'est toi qui l'as ouvert aussi.
Oui, parce que je supporte pas, enfin, j'ai jamais vraiment réfléchi juste personnellement. Alors moi, personnellement, je me prépare de mon côté et j'ai cette culture du sport individuel, en fait, dans la préparation, ce que je peux parfois... moi, aujourd'hui, je ne suis pas devenu sélectionneur de l'équipe de France de rugby féminin, et je ne touche pas aux sportifs, aujourd'hui, dans mon rôle de manager, parce que je suis trop exigeante. Je suis trop... voilà. Mais par contre, défendre les intérêts d'un groupe, ça me tient à cœur, quoi. Voilà. Après, défendre l'intérêt du groupe, c'est une chose. Ensuite, les individualités, là, je suis trop chiante. Enfin, je suis trop exigeante pour pouvoir avoir un rôle sur le terrain, quoi, d'un point de vue sportif. Et je me le refuse. Aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas entraîner une équipe.
Est-ce que cette exigence que tu as envers toi-même, tu pars du principe que tout le monde doit l'avoir envers soi-même, quoi.
Voilà. En fait, c'est moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. J'ai vraiment un souci avec ça. C'est que je comprends pas qu'on veuille réussir, mais qu'on mette pas en action ce qu'il faut faire, quoi. On me dit, enfin, j'en vois des jeunes, qui ont des gabarits, qui ont tout pour réussir, qui s'y file pas, quoi. Et ça, je le comprends pas, en fait. Mais parce que moi, j'ai été toujours dans une volonté de réussir, de gagner, tout ça. Et en fait, il faut que j'accepte aussi que tout le monde n'est pas dans cette culture-là. Bon, j'arrive pas à comprendre qu'on soit pas dans cette culture alors qu'on postule pour l'équipe de France. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais en effet, dans les clubs, c'est compliqué pour moi, quand je m'entraînais, d'avoir des filles qui venaient juste et puis qui venaient faire du loisir, quoi. Voilà, je l'acceptais, mais ça m'était compliqué, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne touche pas aux sportifs, pas du tout. J'ai un sélectionneur qui est là, avec des entraîneurs qui sont là pour ça. Moi, je supervise, mais j'ai plutôt même tendance à pas rester forcément longtemps sur le bord de terrain quand les filles sont en stage ou quoi, et à aller faire autre chose, parce que j'ai du mal, quoi.
Ça t'agace.
Ah ouais, vraiment. C'est... Là, je le vois, je l'ai vu encore ce week-end, quoi. Voilà. Donc, je passe, je regarde, je... je discute avec le staff et tout ça, mais pas de sportif. Voilà, je me refuse. Voilà.
Et tu dirais qu'il y a une évolution générationnelle sur ce sujet-là, où tu sais, quand on vieillit, on a souvent tendance à dire hey, les jeunes, c'est plus ce que c'était, gna gna gna.
Oui.
Ou est-ce que ça a toujours été comme ça?
Non, je pense qu'il faut pas tomber là-dedans. C'est juste que j'ai l'impression que beaucoup de choses sont mises en place qu'on n'avait pas avant. Des suivis, on a un préparateur physique qui suit beaucoup là, toute la préparation, qui avec de la mise en place de programmes. Enfin voilà, les filles s'entraînent avec des GPS. Il y a des conditions d'entraînement où on fait ça de 2 jours. On essaye de mettre pas mal de choses en place pour de la récup, pour enfin, voilà les soins, les tout un tas de choses. Et je me dis mais c'est pas possible qu'avec tout ça, elles aient pas envie de réussir quand même. Il y a tout qui leur est en partie, c'est pas non plus l'extrême, on n'est pas au Real de Madrid, quoi, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place qu'on n'avait pas nous, pour la performance, et j'arrive pas à comprendre que certaines ne s'en saisissent pas, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est la génération? Non, je pense pas, je pense que c'est des caractères. Moi, quand j'ai fait du judo, j'avais envie de réussir, une autre aussi avait envie de réussir. Moi, j'allais me faire tous les clubs de Bordeaux tous les soirs. Lundi soir, c'était à tel endroit, mardi soir, c'était à tel endroit pour souffrir, pour trouver des partenaires, pour apprendre d'autres choses, pour combattre, voilà, pour me faire mal. Et quand il fallait perdre 5 kilos dans la semaine, c'était 5 kilos dans la semaine, quoi. Et je démarrais le lundi, le mercredi, j'étais au poids, quoi. Et ensuite, ouais, j'en faisais un peu plus pour pouvoir manger. Enfin, bon, il y avait tout un système, mais voilà, j'étais exigeante envers moi-même et je voyais pas si j'avais envie de réussir, comment on ne pouvait pas l'être. Voilà. Mais
tu me l'as expliqué ça, comment tu faisais pour pendant le salon là. Tu me l'as expliqué comment tu faisais pour perdre justement ces kilos. Est-ce que tu peux le raconter?
Ouf, c'était pas des bons moments. Oui, bah après c'est chacun un peu ses méthodes. Il y en a qui perdent sur 2 semaines, 3 semaines quand ils savent qu'ils ont la compétition. Bon, moi j'avais plus que de l'eau à perdre. J'avais déjà une masse grasse qui était faible et donc du coup, voilà, il fallait que je perde de l'eau. Donc en fait, je démarrais le lundi et puis je m'entraînais ou j'allais courir avec Kawe, ouais, tout ce qui des couches et des couches et des couches. Et puis j'évitais de manger parce qu'en fait c'était pas compliqué hein. Si j'avais 5 kilos à perdre, j'allais courir, j'en perdais 2,5. Bon, il m'en manquait encore 2,5, mais donc du coup je pouvais pas reboire parce que si je buvais un litre, c'était 1 kilo de repris, quoi. Ça fonctionnait vraiment comme ça. Et puis alors le corps est vraiment j'en étais à la fin où quand je mangeais un œuf que je pesais, il faisait 100 grammes. Je me montais sur la balance après avoir mangé, j'avais vraiment repris 100 grammes, quoi. C'était vraiment au gramme près. Donc, je m'entraînais en kawé, je buvais pas. Donc, du coup, c'était moins manger. Donc, c'était souvent qu'une tranche de jambon pour la journée ou un œuf pour la journée ou voilà. Et ensuite, je m'amusais. Pour éviter la sensation de soif, elle y était de toute façon dès le début. Elle y est dès qu'on commence un entraînement et qu'on peut pas boire. Voilà. Mais je prenais des glaçons. Parce que du coup, les glaçons, c'était une quantité d'eau, en fait, qui était ultra raisonnable. Mais du coup, qui restait, je suçais le glaçon et ça me permettait de, pendant 2-3 minutes, d'avoir l'impression d'avoir la bouche humidifiée, quoi. Mais c'était l'enfer, quoi, parce qu'on arrive le samedi ou même le vendredi, la moindre pub qui passait à la télé, quand de lait ou de coca ou de, alors que moi j'en bois pas, je suis pas fan de toutes ces boissons sucrées, mais c'était, j'en pouvais plus, quoi. À regarder ça à la télé, même un verre de lait me faisait envie, quoi. Et c'était donc, j'allais m'entraîner quand j'étais dans la douche. C'était limite s'il fallait pas qu'on me surveille dans la douche, parce que j'aurais bu l'eau de la douche, quoi. Voilà, l'eau, le jet qu'on se fait passer sur le visage, on en prend dans la bouche, mais faut être capable de se dire, je la recrache, je l'avale pas. Donc, c'était, voilà, on se lave les dents 10 fois dans la journée, parce qu'on est comme, en fait, on est comme une bonne gueule de bois, quoi. Alors pas forcément avec la tête qui tourne et l'aspect malade, mais la sensation de bouche pâteuse, mal à la tête, et puis cette sensation d'avoir soif, enfin la sensation, pardon, d'avoir faim n'est rien comparé à la soif. Moi, le vendredi, même le jeudi, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux, et puis c'était souvent le cas en plus, de me dire mais tu pourrais manger une tranche de jambon, j'avais pas envie de manger une tranche de jambon, j'avais envie de boire un verre d'eau. C'était la faim, c'était rien. À côté, c'était peanuts. Voilà, c'était. Mais alors l'eau, c'était terrible. Et ça arrivait 4 ou 5 fois dans l'année, quoi.
Ah, j'allais te demander combien c'était de fois.
4 ou 5 fois, parce qu'en fait, quand on se qualifie, par exemple, si on fait les départements dans une catégorie, qu'on est qualifié aux régions, on peut pas changer de catégorie. On peut pas se dire, bah, tiens, je suis qualifié aux régions et j'y vais dans la catégorie au-dessus. Donc, une fois qu'on est dans une caté, on reste dans sa catégorie, quoi. Donc, bah, ça demande de. Voilà. J'avais même une fois, pour dire, bah, on tombe dans des extrêmes, hein, j'ai même une fois où j'avais le ver solitaire. Et en fait, j'avais une compétition. Limite, j'avais fait exprès de pas l'enlever, enfin de pas prendre les cachets pour l'enlever, pour continuer à maigrir. Enfin, du moins pour pas reprendre de poids. Donc non, mais c'est des trucs de fou. Enfin, je veux dire, on est dans un truc où, mais on en devient fou, quoi. On en devient fou et on dit bien de toute façon que en judo, le premier combat, c'est la balance, hein. Moi, j'en ai vu. Alors, je suis jamais arrivé dans cette avec ça, mais on en voit qui, le matin de la compétition, sont encore en train de courir. Sont encore en train de courir et certains, moi ça m'est arrivé ça, où bah, on est obligé d'attendre la fin de la pesée pour se peser nu, parce que bah, la brassière ou la culotte ou quoi, bah, c'est 100 grammes de plus. Et qu'on n'est pas, on peut pas se permettre 100 grammes. On est vraiment, moi j'ai connu des 57,1, et à 57,1, ça passe pas. Donc, ben, ce qu'on fait, on va aux toilettes, voilà, et puis au bout d'un moment, ben, on enlève la brassière, quoi. On enlève la culotte. Et on se pèse nu, quoi, pour qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et là, ça passe 57,0. Et là, c'est bon. Donc, non, c'est des trucs de malade. Et quand on est en compétition, sur des grosses compètes, enfin, notamment des championnats de France et tout ça, le problème, c'est que tout le monde est comme ça, quoi. Tout le monde est dans cette logique. Donc, tu regardes les visages de tout le monde, c'est un massacre. Le matin, tout le monde est couleur carton, fatigué, tu vois les cernes vraiment sur le visage de tout le monde. Ceux qui sont encore en train de courir à côté, capuche, kawaii, kimono par-dessus pour. Voilà. Après, il y en a, c'est leur méthode, hein. Ils perdent, ils savent que bah, ils ont pas besoin de les 500 derniers grammes, ils ont pas besoin de les perdre. Ils savent que le matin, ça va le faire. C'est chacun sa méthode en fait. Moi, j'étais une stressée du poids, donc moi le mercredi, j'étais à 57 kilos. Donc voilà. Après, il fallait les tenir, donc ça me permettait de souvent je descendais jusqu'à 56 et demi, et ça me permettait de remanger tous les soirs. Ça me permettait de manger un peu. Je me rentraînais le lendemain, donc ça rediminuait, etc., etc. Puis je finissais parce qu'au bout d'un moment, limite, on n'a même plus la force d'aller courir, quoi. C'est, moi j'ai fait des courses où le retour, mais il m'a fallu 1 heure et demie parce que limite je faisais malaise sur malaise, quoi. Alors tu t'arrêtes, t'as la tête qui tourne et tout ça, t'as plus la force du tout pour marcher. Alors tu t'arrêtes, t'attends un peu, tu repars, mais elle est loin à la maison. Mais donc je finissais au sauna, mais bon, c'est pareil, au sauna, quand on a plus que 300 grammes à perdre, le corps il veut même plus transpirer, quoi. Tu passes 10 minutes dans le sauna, t'as pas une goutte d'eau qui coule, quoi. Donc, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Et puis, voilà, où t'arrives, même quand t'as couru, t'as même plus la force. Moi, le vendredi, j'arrivais, j'avais même plus la force de me déshabiller, quoi. Donc, t'arrives, tu te mets à côté du canapé. Limite, bah là, moi, ça m'est arrivé aussi tu pleures toutes les larmes de ton corps, parce que t'en peux plus. Moralement, t'en peux plus. Physiquement, t'en peux plus. Donc on t'aide à te déshabiller et tu te pèses. Bon, tu te dis, là j'ai quand même perdu 1 kilo alors que j'avais 100 grammes à perdre, j'ai réussi à en perdre un. Donc dans ta tête, tu te dis, voilà, je vais pouvoir manger un œuf et une tranche de jambon et un mini yaourt. C'est la fête. Puis bon, ben voilà, mais allez, tu dis c'est pas grave, c'est comme ça. Puis tu repars dans ce que tu t'es fixé, dans ton objectif, et puis tu dis allez, ça va tenir. Et puis voilà, je n'ai jamais démarré un régime que j'ai pas fini. Voilà, j'ai eu la chance. Il y en a plein hein, qui craquent, hein. Qui craquent et qui laissent tomber. C'était le cas pendant un moment là, quelqu'un je connais un peu, Amandine Bouchard, qui est sélectionnée là pour les JO en judo, qui était en 48. Sauf que c'est une 52 kilos et ça lui demandait déjà pour 52, elle perd du poids. Et donc voilà, et elle craquait des fois sur les compétitions, elle n'y était pas parce qu'elle n'était pas au poids, quoi. Donc voilà, c'est un moment, mais c'est un moment, comment dire, particulier, mais c'est un moment où t'apprends beaucoup sur toi, parce que t'es en difficulté avec toi-même, en fait. T'es en difficulté physique et t'es en difficulté morale. Et c'est toi-même qui t'es mis dans cette position-là. Donc, et on apprend beaucoup là-dessus. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu as vécu ça, aller t'entraîner, te faire 3 séances de cardio et 3 séances de muscu dans la semaine pour faire une prépa Coupe du Monde, à côté, toi, tu peux y aller tranquille, quoi. Voilà.
Ce qui m'impressionne, c'est on parle beaucoup de nutrition pour avoir un pic de forme, un pic d'énergie vraiment important au bon moment. Et puis là, tu dis, tout le monde arrive à la compétition complètement éclaté, quoi, parce que on n'a pas mangé. Et comment tu fais pour en même temps être au pic de forme et avoir toute l'énergie nécessaire pour tout donner, mais en même temps, si tout le monde est comme ça
Malheureusement, oui, tu l'as pas. Tu l'as pas. Et en fait, moi, je l'ai vécu enfin, différemment à chaque fois parce que, d'une, tu l'as pas. Tout le monde est comme ça, comme tu dis. Voilà. Donc, en fait, souvent, entre ta pesée et ton premier combat, tu as 1 heure. Tu as l'impression, alors, tu t'es préparé à une plâtrée de pâtes ou de riz, de trucs, de dire, ah là là, le matin, t'as eu vraiment. T'es fait plaisir à préparer ça. Franchement, dans l'heure, si tu manges 2 cuillères, c'est le max parce qu'en fait, ton estomac, il veut pas. Il est tellement redevenu petit, tu lui as tellement rien donné dans la semaine qu'il veut pas en fait emmagasiner ce que tu veux lui donner. Donc j'avais réfléchi avec une pote qui était médecin justement pour pareil pour la réhydratation. T'as beau c'est pareil, l'eau ça passe pas. Une fois que t'as bu 2 gorgées d'eau, en fait voilà, ça marche pas. Et moi je me souviens que j'avais eu alors. On avait réfléchi ensemble avec ma pote sur des compléments pour réhydrater de façon très rapide. Donc elle m'avait conseillé pas mal de compléments, de choses comme ça, à prendre, à mettre dans la bouteille, à boire ça le plus rapidement possible. Enfin bon bref, voilà tout un tas de trucs. Mais par exemple moi, mes reins se remettaient à fonctionner que le lendemain. C'est-à-dire que je faisais une compète le samedi, j'avais beau boire et c'est boire le tout au long de la journée, il y a au bout d'un moment où ça revient petit à petit, mais par exemple, mes reins se remettaient à fonctionner le lendemain, donc j'allais très clairement, j'allais aux toilettes le lendemain, que le lendemain de ma compète, le temps que mes reins acceptent et qu'il y ait quelque chose à filtrer aussi quoi, voilà et c'était hyper douloureux quoi, voilà. Enfin c'était, je me souviens c'était voilà les reins qui se remettent à fonctionner, c'est tu le sens, tu sais où sont tes reins quoi, voilà. Et bizarrement,
C'est quoi l'impact sur le corps de tout ça?
honnêtement, je sais pas trop. Je sais qu'il aime pas ça et je peux t'assurer qu'il s'en souvient parce que quand tu veux lui, ça devient de plus en plus dur après à faire des régimes. Ton corps, il se souvient que là, tu lui as fait un truc qui, tu vois, qui est pas bien quoi. Et il veut pas le revivre. Donc comme il veut pas le revivre, il est réfractaire au fait que tu perdes. Et moins tu perds, plus tu demandes. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux quoi. Parce que et plus tu te fais mal. Donc au bout d'un moment, il lâche, mais tu t'es fait beaucoup plus mal que la dernière fois, etc., etc. Et après, il a tendance à stocker aussi beaucoup plus. Et ben là, tu vois, une fois qu'on arrête le sport, ben là, c'est là qu'il est en train de... Moi, là, mon corps, il est en train de me dire, même si ma tête, par moment, veut faire des choses, mon corps, il me dit, mais t'as vu ce que tu m'as fait subir là pendant 20 ans? Et tu crois que je vais te laisser faire maintenant comme tu veux? Enfin voilà, toi il y a cette sensation-là. Mais bizarrement aussi, alors c'est vrai quand on recombat, on a souvent des crampes. Enfin moi j'ai fait des combats, voilà, t'as la tête qui tourne, t'as des crampes qui viennent, mais tout le monde est dans le même cas. Et en fait, enfin après tu vas l'épuiser, voilà, tu vas l'épuiser, hein, ton énergie, t'as envie de gagner, t'as envie de... Bref, voilà. Mais Moi, ça m'est arrivé de faire une compète le matin et un match de rugby l'après-midi. Et donc de perdre et tout ça, de faire ma compète. Mais l'après-midi, en plus, c'était un match international. Je jouais contre les Anglaises, un club anglais. Mais j'ai jamais été aussi en forme. Pourquoi? J'en sais, je sais pas pourquoi. Je me sentais bah, légère, forcément, j'ai 5 kilos en moins à traîner. Mais hyper. Je sais pas, alors c'était sûrement dans la tête, tu vois, où j'étais libérée aussi de ma compète du matin, avec les effets de quelqu'un qui a maigri, enfin voilà. Et en fait, mais je me souviens du match que j'avais fait, enfin. Voilà quoi, j'étais hyper bien quoi. Alors, tu vois, c'est. Je suis pas moi très. Je suis pas très nutrition, je suis pas très moi quand on te dit il faut boire 2 litres d'eau par jour, j'ai jamais bu 2 litres d'eau par jour dans ma vie. Quand je bois 3 verres d'eau dans la journée, 4, c'est le max. La nutrition, moi j'ai jamais suivi de tu vois de vraiment de enfin jamais été suivi au point de vue nutritionnel. Je n'ai jamais eu de grosses blessures. Je suis jamais fait les croisés, j'ai jamais eu d'épaule, jamais eu des blessures classiques de main, de nez, je veux dire, qui correspondent au sport, mais jamais de grosses blessures. Jamais. Et j'avais l'impression, à 34 ans, quand j'ai arrêté, d'être bien plus en forme que la plupart des jeunes, quoi. Donc après, tu vois, j'ai pas de. Moi, j'ai toujours mené toute ma carrière sans jamais suivre les règles, quoi. Quand je m'entraînais tous les jours au judo. Quand j'avais envie de faire la fête, je faisais la fête. Quand j'avais envie de, enfin, tu vois, je me suis jamais rien refusé, quoi. Donc, pour ça, je suis pas de bon conseil, moi. Tu vois, les gens qui se disent, ah non, mais attends, mais moi, je dors 8 heures par nuit. Là, le soir, je mange ça, 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 truc. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais fais surtout ce qui te correspond à toi, en fait. Tu
Ouais,
vois,
ça
c'est.
rassure aussi à ceux qui font ça.
Ouais, mais moi, j'estime vraiment. Et je pense que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si j'avais été limitée, contrainte. Tu vois? Si sur certains aspects j'avais été, moi j'ai vécu vraiment ma carrière sportive sans, voilà, ça a toujours été cool quoi. Au-delà de m'entraîner dur, d'être dans cette recherche de perf, je me suis toujours fait plaisir, en
T'as pas
fait.
l'impression d'avoir fait de sacrifice?
Non. À part les régimes au judo, c'est tout. Derrière, je finissais mon régime, je finissais ma compète, le midi, j'étais au resto, quoi. Alors, ça passait pas beaucoup et tout ça, mais j'étais au resto avec une bouteille de vin, quoi. Qu'est-ce que, tu vois? Et je décompressais le dimanche et le lundi, ben ouais, je me remettais à l'entraînement, mais si le lundi soir, j'avais envie d'aller boire un verre, ben j'allais boire un verre, mais je m'étais entraîné avant. Et si j'avais fait des excès et que le mardi, j'étais mal, pas d'excuses quand même, j'allais m'entraîner avant, mais je me refusais rien quoi. Et j'ai toujours été, tu vois, enfin, j'en vois là, j'en vois qui sont malheureux, si tu veux, dans leur prépa. Voilà, ils font une prépa, ils préparent la plus grande échéance au monde, mais ils sont malheureux. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça leur convient, sûrement. Mais moi, c'est pas comme ça que je le voyais, quoi. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que eux font une prépa JO et que moi, j'en ai jamais faite, hein. Mais voilà, voilà. Moi, j'ai au moins sur ça, si tu veux, j'ai. Alors, faut pas en avoir, mais moi, j'ai zéro regret, quoi, sur ma prépa, sur ma carrière, ce que j'ai toujours fait, ce que j'avais envie de faire, et je l'ai fait toujours avec plaisir, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des gens qui arrêtent leur carrière et qui finissent aigris parce que tu vois, toute leur carrière a été que contrainte, que. Enfin, voilà, ça, voilà, j'ai du mal avec
Et
ça.
si tu avais quand même une chose que tu pouvais changer, modifier, améliorer, ce serait quoi?
Je serais. Non. J'allais dire, je serais peut-être resté sur du rugby à 15 pour avoir une carrière un peu plus étoffée, on va dire. Mais
Prestigieuse?
prestigieuse, mais peut-être. Moi, j'ai un gros complexe, en fait, avec. Je suis très admirative des gens qui ont réussi dans leur sport. Ceux qui ont démarré, comme tu disais, jeunes, qui s'y sont filés sur leur sport toute leur carrière. et qui arrivent à faire des championnats du monde, des championnats d'Europe, des JO, des choses comme ça. Je suis très admirative, moi, de ça. Plus que de moi qui ai fait plein de sports, quoi. Tu vois, je fais une formation à côté, là, au GDES, avec des Aurélien Rougerie, avec des Ouédraogo, avec des Laurent Koscielny, avec des Céline Dumerc. Voilà, moi, je suis assez admirative de ces gens-là qui ont réussi dans leur sport. Voilà. Donc, voilà. C'est mon seul, regret de peut-être pas avoir trouvé mon sport. Voilà. Quand j'écoute la personne avec qui j'étais, qui m'a fait démarrer le judo, il me disait, mais si t'avais démarré jeune, t'aurais une vraie carrière en judo, quoi. Alors peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais voilà, ce regret-là, de ne pas réussir, pas avoir réussi, peut-être à trouver mon sport. J'en ai trouvé plusieurs, mais voilà, c'est tout. Mais après, bon, je me suis quand même bien éclaté dans tout ce que j'ai fait, quoi.
Ah, si en 2 ans, t'as réussi à être championne de France, en étant ceinture marron, on peut se douter qu'il avait peut-être un peu raison, mais...
Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Après, tu sais, ça se trouve, ce que j'ai fait là, en démarrant à 5 ans, je l'aurais peut-être pas fait. J'en sais rien. C'est peut-être aussi l'expérience de sport passé qui m'a permis d'avoir une capacité à m'entraîner, d'accepter de redémarrer de zéro. Parce que redémarrer de zéro, j'avais 25 ans, hein. Tu vois, quand ou 23 ans, quoi. Donc démarrer un sport aussi technique que ça à 23 ans, tu vois, mais j'avais pas de complexe, j'avais pas d'ego. Je me suis pas dit, attends, je vais pas démarrer du judo à 23 ans où je vais me faire déboîter par des gamins de 15 ans, quoi. C'était le cas, hein, au début, je veux dire, voilà. J'avais pas d'ego, voilà, sûrement parce que j'étais passé par d'autres sports aussi, j'avais redémarré déjà à zéro. Donc voilà, j'ai pas... Donc bon, faut... Comme on dit, faut pas avoir de regrets. Donc, j'évite d'en avoir. Voilà. C'était ce que j'ai fait, c'était déjà pas mal.
Ce qui me marque un petit peu, c'est finalement, tu parles peu. On a beaucoup parlé de judo, là. Alors, c'est peut-être mes questions qui ont orienté, mais tu parles finalement peu de ton parcours dans le cyclisme. Tu as beaucoup parlé de rugby, beaucoup de judo. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es... Je sais pas, moins fier ou...
Oui. un peu moins fier parce que ce monde-là, c'est le monde, on va dire, qui m'a le moins parlé, le moins plu sur les valeurs. Ça a été des belles années. Mais c'est pas, voilà, si je dois retenir des titres, c'est pas ceux-là qui me font le plus vibrer, quoi. Voilà. Mais bon, je les ai et c'est bien. Et puis peut-être, je sais pas, ça a été aussi un moment de ma vie qui était un peu plus compliqué où, voilà, je disais au début, je venais de perdre ma mère. Ça a été un refuge, en fait, le vélo est tombé à ce moment-là, un vrai refuge, le sport en général, mais le cyclisme à ce moment-là, et j'ai en gros, c'était pour pas sombrer, je vais faire du vélo, quoi. Et alors, bon, ça a fonctionné, mais avec tous les travers du vélo, quoi. Voilà, sur ce qui est dopage, sur ce qui est mentalité, sur ce qui est, voilà. Donc c'est pas la meilleure période, et enfin, j'ai repris un peu, puisque je me cherche, hein, j'ai repris un peu le vélo justement cet été, puisqu'avec ma hanche douteuse et mon dos, le vélo, c'est quand même un sport où j'ai pas de douleur, puisque je porte pas mon poids. Donc voilà, je m'y suis remise avec plaisir, mais où là, c'est vraiment sans compète, quoi. Voilà, non, le vélo, c'est derrière moi. En termes de compétition, c'est pas du tout un sport que je reprendrai pour en compète.
Et pourtant, quand je t'ai demandé s'il y avait quelque chose que t'aurais modifié, amélioré, t'as pas cité ça.
Non, parce que non, mais comme je dis, j'essaye de vivre en me disant pas de regrets, voilà. Donc ça a été, je l'ai fait. Et j'ai vécu des bons moments aussi sur le vélo. Attention, tout n'a pas été noir, Mais voilà, à l'arrivée, est-ce que les moments un peu, enfin pas top, ont pas été un peu plus grands que les moments top? Voilà. Je changerai pas parce que ben, ce qui m'a parce que ce sport est quand même un sport qui est dur et qui demande quand même quand on est tout seul sur son vélo, enfin voilà, c'est compliqué. Donc qui m'a amené des choses, qui m'a amené des choses pour la suite dans ma capacité encore une fois d'être capable de m'entraîner dur. C'est vrai que quand j'ai fini le vélo, je passais au rugby. Quand les entraînements se finissaient, dans ma tête, c'est quand est-ce qu'on commence quoi? Parce que voilà. Mais donc du coup, ça m'a amené, voilà, c'est toujours cette culture de la dureté, quoi. Voilà. Mais donc pour ça, je changerai pas. Mais voilà. Si on me demandait, tu vois, c'est quoi ton meilleur titre, enfin quel est le meilleur souvenir dans le sport, je citerai pas un moment de vélo.
Et tu citerais quoi alors?
Oh, des titres de championne de France. Le judo a été particulier quand même parce que je me voyais pas là. Quand je voyais, enfin voilà, c'est en plus de ça, le judo ça a cette particularité, tu sais, c'est je refais la même journée, je gagne pas. Je recombats les mêmes filles, je gagne pas. Je refais pas leur championne de France. Tu sais, c'est toujours cet instant-là. Donc il a ce côté instant magique, le judo. Donc c'est honnêtement, je pense que c'est le premier type. Il était partagé. J'avais la personne avec qui je vivais sur la chaise, qui me coachait. Donc, si tu veux, c'était voilà ce partage-là. Et après quand même des titres de championne de France de rugby à 13. Et tous honnêtement, parce qu'ils sont tous top. Le dernier parce que je venais de changer de club. Et quand j'ai eu le nez creux, j'ai choisi le bon club. Mais voilà, enfin, peut-être le judo en priorité. Allez.
Eh ben écoute, Elisa, on a réalisé je trouve, un très bel épisode. Merci beaucoup d'avoir participé. Je termine toujours les échanges avec les invités en posant toujours un peu la même question.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôturer?
Non, on a parlé de plein de choses qui étaient top et je te remercie d'ailleurs de ce moment de parole qu'on avait entamé ensemble à la Saint-Élion. Mais non, non, j'ai honnêtement parlé on a parlé de tout ce qui m'a animé sur mes 20 années, donc aucun problème, aucun élément qui manque.
On n'a pas parlé de ton actu, de ta suite. Tu as parlé de ton poste à la Fédé, mais tu as aussi t'as un petit rôle, un petit entre guillemets,
Petit.
dans le CESO.
Oui, ben c'est vrai qu'avec cette formation que j'ai démarrée là sur la formation Limoges, donc au Centre de droit et d'économie du sport, sur le manager général de club pro, on a un projet à mener. En fait, c'est vrai qu'on m'a embarqué sur le CESO, justement. Donc c'est Gilbert Izerne qui m'a embarqué. On s'est connu à la Fédération de rugby, qui est parti, puis qui m'a embarqué avec lui sur ça, et c'est vrai que c'est ce monde de l'outdoor, même si j'ai grandi dedans, en fait, à l'arrivée, je le connaissais pas plus que ça, et je suis, voilà, aujourd'hui, j'accompagne, avec mes moyens, le CESO, et on verra la suite. Alors, c'est vrai que je fais ça sur mon temps libre, donc j'ai ce double emploi, on va dire, sur le rugby à 13 et là-dedans. Je sais pas où ça me mènera, mais en tout cas, le sujet est passionnant. Et donc, j'ai 2 années là de formation, 2 années à suivre ce collectif, qui pour plus tard, on ne sait pas, continuer avec eux par la suite. On verra.
Ben, l'avenir nous le dira. Alors, CESO, collectif événementiel sportif outdoor. Merci beaucoup, Elisa, d'avoir participé à cet épisode de l'Instant Outdoor. Je suis très content d'avoir commencé l'année avec notre épisode, notre échange.
Eh bien, merci à toi.
J'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup
Ouais.
et puis à bientôt.
Eh bien, à bientôt. Merci à toi.
Ciao.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.